Vivez le Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose !
La web radio du off.
Les bonnes ont parfois toutes les raisons du monde d'être mauvaises. Cherchez pas, vous allez comprendre. Et comme disait Coluche, oh là là, le petit personnel, c'est une calamité. Eh bien, Jean Genet rejoignait Coluche dans cette citation, puisqu'il avait travaillé bien avant lui sur le sort des petites gens qui travaillaient pour les gros pontes, en quelque sorte, dans les maisons où ils étaient employés. Et donc, le petit personnel, le personnel domestique en l'occurrence, a été à l'origine, dans sa situation sociale et parfois aussi dans sa détresse, ou dans sa veulerie, ça dépend, a été à l'origine de nombre de créations de théâtre, de romans, qui ont été adaptés aussi parfois au cinéma, et c'est notamment l'objet de votre travail. Marcos Malavia, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes metteur en scène de ce spectacle, Les Bonnes ou la tragédie des confidentes, représenté à 18h au théâtre L'Étincelle jusqu'au 31 juillet. Et à vos côtés, il y a une des comédiennes de ce spectacle, Amélie Dumay. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous-même, vous incarnez une de ces demoiselles qu'on appelle parfois soubrette, qu'on appelle parfois boniche, qu'on appelle parfois de tas de mots humiliants et parfois même carrément méchants et qui se venge comme elle peut dans les situations dans lesquelles elles sont. Et puis moi qui suis d'origine bretonne, je vous assure que du bécassine, j'en ai mangé. Tout le monde se moquait de moi avec ça. Les gens sont comme ça, que voulez-vous ? Et donc, Amélie Dumay, vous incarnez une de ces personnes de basse extraction, de basse condition, mais qui sait se venger parfois et comment, notamment dans ce texte de Jean Genet, Les Bonnes ou la tragédie des confidentes. Alors, je n'ai pas compris cet aparté dans le titre, ce sous-titre en fait que vous avez ajouté, puisqu'il n'était pas dans le texte d'origine, Marcos Malavia, la tragédie des confidentes. Pourquoi cet ajout ?
En fait, c'est le premier titre de la pièce qui avait donné Jean Genet.
En 1947, quand il a sorti.
Voilà, et une fois sorti des prisons, il écrit, c'est une des la première pièce qu'il écrit, et le titre qu'il avait, lui, donné à cette pièce, c'était « La tragédie des confidentes ».
D'accord.
Et c'est à la lecture qui fait Louis Jouvet de cette pièce qui lui suggère de plutôt l'appeler « Les Bonnes ». Et donc, nous, on a préféré de rappeler ça parce que, aussi, on a essayé dans cette création d'aller au plus près aussi de l'écriture de Jean Genet et du théâtre qui propose Jean Genet. Et dans cette pièce qui parfois peut paraître, qui doit être jouée d'une façon très réaliste, qui s'est réduit au fait de la lutte des pouvoirs, si vous voulez. Et dans la lecture qu'on a fait, je trouve que la pièce elle est beaucoup plus large que ça. Elle propose une lecture plus large et je trouve que le premier titre de la pièce, Tragédie des confidentes, donne la dimension de la pièce qui, pour moi, c'est une tragédie avant tout. Et elle est bâtie comme une tragédie vraiment et avec un personnage central. Mais voilà, dans l'écriture de Jean Genet, il a joué avec aussi une certaine réalité sociale qui fait que tout à coup l'aspect est tragique, il faut aller vraiment les chercher. Voilà.
On sent votre intérêt et pour cet auteur et pour ce texte. Intérêt d'ailleurs qui est assez touchant puisque vous-même, on le sent à votre élocution, ne le prenez surtout pas mal, le français n'est pas votre langue maternelle, vous venez d'Amérique du Sud.
Oui, oui, oui. Et ça fait pas mal d'années que je vis en France. Et puis là, maintenant, je suis entre la France et la Bolivie, puisque j'ai la responsabilité de l'École nationale de théâtre en Bolivie.
D'accord.
J'ai deux patries, voilà.
J'ai deux amours, voilà. Comme disait l'autre. Voilà, mais bon, je vous confirme que ce soit en Amérique du Sud ou bien en Europe et plus précisément en France, le personnel de maison vivait parfois 100 ans de solitude dans sa courte existence. Donc, un petit clin d'œil à la littérature sud-américaine en l'occurrence. Alors, ce n'est pas forcément votre première fois, sinon, au Festival d'Avignon, du moins dans la région. Vous-même, Amélie Dumay, vous êtes venue à deux reprises présenter des spectacles au Festival Off.
Oui.
Quels étaient ces spectacles? C'était il y a combien de temps en fait?
Le premier c'était en 2008, c'était Les 7 jours de Simon Labrosse, de Carole Fréchette. Et le deuxième c'était, qu'on a joué deux fois, ça s'appelait L'héroïsme au temps de la grippe aviaire, d'un auteur belge qui s'appelle Thomas Gunzig, qui est un excellent chroniqueur à RTBF tous les matins à la radio belge.
Ouais. Eh bien, le jour où il nous parle du temps du Covid, les ruisseaux au temps du Covid, j'imagine que vous serez sur le coup, il y aura de quoi faire. Prenez vos précautions tout de même, on a envie de vous revoir. Vous-même, Marcus Malavia, vous êtes déjà venu dans la région, notamment parler de théâtre contemporain à Lille-sur-la-Sorgue, vous m'aviez raconté.
Oui, c'est-à-dire que, je vous ai dit, je dirige l'École nationale des théâtres en Bolivie, ce qui m'a éloigné un peu de la région, du festival. Et là, je retourne avec la compagnie qu'on a avec Amélie Dumais, qui est Mona Lisa Claxon. Mais dans le passé, en fait, j'avais créé le festival Auteurs en Acte, qui s'est déroulé à Lille-sous-la-Sorgue. Au départ, c'était ici au Festival d'Avignon, et on avait créé un lieu qui était consacré aux écritures contemporaines, qui était à la Faculté des Lettres.
D'accord.
Et après, c'est devenu un festival à part entière, à Lille-sous-la-Sorgue.
C'était en quelle année tout ça?
À Lille-sous-la-Sorgue, ça a été de 98 jusqu'en 2002 à peu près.
D'accord.
Et après, les festivals, maintenant, il a lieu en région parisienne, voilà. Voilà, on a agité un peu la région. À un moment donné où les auteurs contemporains, c'était pas une préoccupation de premier plan, voilà. Donc on a essayé de faire des choses pour ça.
Donc le théâtre contemporain qui est aussi un des aspects de votre travail, notamment au sein de cette compagnie Mona Lisa Claxon. Alors j'adore le titre de la compagnie. On retrouve ce côté un petit peu, enfin je vais pas dire burlesque parce que c'est pas le propos, mais cette manière d'appliquer un vernis qui n'a pas forcément été conçu pour ça sur des textes de théâtre contemporain qui sont devenus avec le temps des classiques. Je pense notamment, vous parliez de Jean Giraudoux tout à l'heure quand on préparait cette interview hors antenne. Je pense notamment au théâtre de Jean Genet, dont cette pièce, Les Bonnes, sortie en 1947, juste après la guerre, comme on le racontait tout à l'heure. Alors, pourquoi cette pièce en particulier? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte en particulier? Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous n'êtes pas rentré dans les détails.
Oui, tout à fait. Et ce qui m'a attiré dans cette pièce, avant tout, c'est de comprendre la pièce, de comprendre qu'est-ce qui s'est joué à l'intérieur de la pièce, et plus je l'ai lu, plus on l'a travaillé avec Amélie, et plus je compris en fait que cette pièce était une mine très riche et très secrète. Contrairement à ce qu'on pense, on pense que bon, la situation c'est de bonnes qui jouent à interpréter leur maîtresse des maisons et qui vont la tuer. Voilà. Mais en fait, ça joue beaucoup plus des choses du plan humain, du plan existentiel. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, c'est une tragédie, parce qu'il y a un personnage principal que parfois on peut penser que c'est madame, la maîtresse des maisons, mais à mon point de vue, c'est Claire, celle qui interprète Amélie. Et d'ailleurs, dans la pièce, on a travaillé autour de cette notion si chère à Jean Genet, qui était le genre au théâtre, c'est-à-dire que des rôles des femmes soient tenus par des hommes. Et dans notre version, il n'y a que Claire qui est jouée par une femme. Les autres deux rôles sont joués par des hommes. Mais c'est cette notion tragique. Vous voyez, cette personnage Claire, que depuis le départ de la pièce, il sait qu'il va attendre la mort, quelque part. Un peu comme Antigone. Vous voyez, là, on revient à cet archétype tragique.
De la tragédie Antigone, classique, oui.
Voilà, depuis le départ, elle sait qu'il va mourir. C'est presque une traversée christique, même aussi. Et Claire est là, cette traversée. Et là, pour moi, elle repose vraiment dans ces personnages-là, la pièce. Et plus on avançait, plus je trouve que cette pièce, elle est à relire, elle est à refaire vivre. Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé autour de la fête des morts du Mexique, parce que ça nous permettait aussi une ouverture, comme vous dites, dans les jeux. Le théâtre qui soit présent sur les plateaux et qui soit pas un lieu que de reproduction de la pièce, mais de la représentation de la pièce.
de la reproduction et de la représentation qu'on se fait aussi d'un imaginaire. Et alors la comparaison christique s'arrête quand même au fait que Jésus était entouré de 12 apôtres, mais finalement assez seul sur la croix, alors que Claire, qui est interprétée par Amélie Dumay, a son binôme qui s'appelle Solange, puisque ce sont les bonnes, elles sont deux, ce sont un duo de sœurs, alors en l'occurrence pas deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux, hein, mais vous faites un binôme avec votre confrère, enfin votre consœur, pardonnez-moi, n'importe quoi moi. En tout cas, l'autre actrice, l'autre comédienne qui joue avec vous le rôle de Solange, qui s'appelle comment déjà ?
Alors la comédienne s'appelle Victor Quesada Pérez.
D'accord.
Et elle joue ma grande sœur qui s'appelle Solange.
Il y a des garçons partout dans cette pièce, et donc bah, d'où la confusion, d'où la précision que vous faisiez à propos du théâtre de Jean Genet, qui aimait bien à apporter cette confusion des genres que vous citiez à l'instant. Pour l'anecdote, je précise qu'il y a une chanson de David Bowie qui s'appelle Jane Genet, dans un album du début des années 70, qui fait référence directement à Jean Genet, et parce que Bowie s'était inspiré notamment de son travail à cet auteur français pour lui-même porter des robes, non pas sur les grands boulevards comme disait Boris Vian, mais dans les concerts sur lesquels et pour lesquels il se produisait. Et donc, et bien ce binôme Solange et Claire, ou Solange versus Claire, j'ai envie de dire, constitue un petit peu le cœur de ce spectacle, en tout cas de cette intrigue, puisqu'il s'agit de deux bonnes qui manipulent plus ou moins, en tout cas qui s'approprient une partie de la vie de leur maîtresse, qui dans la pièce s'appelle Madame et qui est jouée par vous-même, donc une Madame avec un petit peu de moustache, on en tirera la conclusion qu'on veut, et un monsieur qui est un petit peu hors cadre, qui est l'amant de Madame en quelque sorte. Et cette pièce, bien que l'auteur Jean Genet ne l'ait jamais admis, était inspirée peu ou prou d'un fait divers qui s'était passé quelques années avant. C'était les crimes des sœurs Papin, qui justement étaient des dames de maison qui étaient au service d'une bourgeoise et qui il y avait des soupçons d'amour lesbienne, mais toujours est-il qu'elles avaient tué leur patronne et elles avaient été exécutées pour ça. Et justement, ce rapport entre l'amour et la mort, vous parliez de toute proportion gardée, bien entendu, vous parliez de tragédie classique tout à l'heure, eh bien, vous l'avez contextualisé dans un autre domaine culturel que vous connaissez sans doute un peu mieux que moi, puisque vous êtes d'origine sud-américaine, bien qu'il s'agisse du Mexique, eh bien, c'était le domaine l'imaginaire de la fête du Dia de los Muertos mexicain. Et donc, ben, on retrouve des éléments de décor propres à cet univers-là, notamment les maquillages.
Oui, tout à fait. C'est en travaillant donc la pièce que petit à petit on s'est rendu compte qu'il fallait lui donner. En tout cas, moi, comme metteur en scène, je travaille souvent sur cette comme ça. C'est-à-dire qu'il me faut une image sur le plateau, une image qui me permette d'alimenter la création, d'alimenter ma créativité, on va dire. Et à un moment donné, en parlant avec Amélie et l'autre comédien, à un moment donné, je ne sais pas, ça m'est venu comme une évidence que cette célébration de la fête des morts pouvait tout à fait se marier avec ce qu'il cherchait. Parce que vous savez, et Amélie, elle a meilleure mémoire que moi, mais il y a, tu sais, Jean Genet, il met un petit mot sur la façon comme doit être jouée la pièce. Tu le connais mieux que moi par cœur.
Il dit la pièce. Comment jouer les bonnes.
Oui. Enfin, il dit quand même.
Ah, il donne des instructions de méthodologie en quelque sorte.
Oui,
d'accord.
Oui. En disant que tout devra être jubilatoire, exagéré, que les hommes pourront jouer les femmes, que les femmes pourront jouer les hommes. Il explique le décor et à la fin il conclut « mais tout peut être autrement, j'en ai déjà trop dit, les metteurs en scène intelligents sauront s'en dépatouiller et les autres feront ce qu'ils peuvent ».
Donc ces éléments de mise en scène, on appelle ça les didascalies au théâtre, et donc j'ose pas imaginer la taille de celle qui l'a rédigée.
Oui, ça fait 4 ou 5 pages.
Oui, mais c'est plus qu'une didascalie, c'est-à-dire que Jean Genet, il propose vraiment, et c'est dans ce sens-là, et là-dessus aussi il dit « il ne faut surtout pas qui soit joué d'une façon naturaliste.
Oui.
C'est intéressant, ça. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, et cette célébration des morts, des jours, du Dia de los Muertos, et ça cadre bien. Donc, il y a la Llorona qui vient au milieu.
Parce c'est cette dame qui pleure ses morts.
Voilà, qui pleure ses morts. Et madame, et les costumes aussi, ils vont dans ce sens-là, les décors, tout est... parce que y a
des robes très chamarrées, des robes avec des grands chapeaux très élégants, parce que rappelons que le personnage de la Katrina, la Catherinette en français, c'est un genre de zombie, c'est une dame squelettique. De fait, c'est un squelette habillé avec de magnifiques atours qui singent justement les bourgeoises mexicaines du 19e siècle. Et c'est aussi pour ça, c'était Posada qui avait fait de très belles gravures à l'époque pour illustrer cet imaginaire-là qui vient du folklore populaire qui précédait déjà l'arrivée espagnole. Et par conséquent, vous avez transposé un petit peu une partie de cet univers-là dans cet imaginaire folklorique, avec un résultat déjà très, très attrayant, ne serait-ce qu'au niveau de l'affiche. On voit trois Katrina les unes près des autres, qui intriguent tout simplement. Et moi, alors à tort ou à raison, plutôt à tort d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais c'est un élément intéressant malgré tout, c'est que je me suis dit, il s'intéresse au sort du personnel de maison via ce texte, Les Bonnes de Jean Genet, et en même temps, il transpose ça dans l'univers du Mexique des années 1920-30. Et je me suis dit, il a forcément pensé au film de Luis Buñuel, Journal d'une ferme de chambre. En fait, non, pas forcément, ou bien inconsciemment, à l'insu de votre plein gré, comme on dit.
Non, mais je pense que... c'est-à-dire que pas directement, surtout pas dans ces films-là, mais lui, Buñuel, il a dans plusieurs de ses films, dans sa période mexicaine, après son exil après l'arrivée de Franco, il a vraiment exploré le Mexique mais en profondeur, pas folklorique. Et peut-être, effectivement, moi j'aime beaucoup l'esthétique cinématographique de Buñuel. Et bon, on est alimenté des tas de choses, en fait, lorsqu'on passe à la création. Et peut-être inconsciemment, oui, il y a le film sur la burguesia, qui est un chaos aussi dans la maison, et c'est à la fois le carnaval, à la fois la mort. Il y a quelque chose, oui, et je pense que, de toute façon, on est très marqué par les cinémas de Buñuel en Amérique latine, c'est ça, c'est clair. Moi, j'étais gosse, j'ai vu les films de Buñuel, on était marqué, oui.
D'accord. Oui, ben, j'aime savoir que ma suggestion vous fera réfléchir en sortant de ce plateau. C'est un petit plaisir sournois que je m'octroie, pardonnez-moi. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Et donc voilà, pour conclure sur le sujet, il y a aussi cet aspect plastique, cet aspect de mise en scène avec ces jolies robes, etc. Je parlais de l'aspect un petit peu carnaval tout à l'heure. Je pense notamment à une scène en particulier que vous jouez, Amélie, avec votre sœur en l'occurrence, puisqu'il y a une scène où elle s'approprie les robes de madame pour les essayer elle-même et en jouer, en se prenant un petit peu pour des marquises ou des duchesses. Et ben justement, ça rejoint un petit peu cette idée, ce caractère un petit peu carnavalesque d'inversion des codes sociaux qui existe peu ou prou dans le Dia de los Muertos au Mexique aussi. Voilà. Et puis ne parlons pas aussi des maquillages que vous abordez sur scène, que vous arborez pardon, sur scène, qui vous donne un peu une phase de carême, pardonnez-moi, parce que dans la réalité vous êtes très jolie, mais là du coup, ça vous donne un aspect un petit peu sinistre qui invite peu ou prou, en tout cas c'est l'idée qui m'est venue à l'esprit, à penser que ce personnel de maison se tue au travail. C'est l'idée, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas que
vous avez... Oui, moi, dans mon idée, je pense qu'il y a un côté d'une grande perversité. Là, pour moi, la pièce, elle est...
D'où l'aspect des confidentes, parce qu'on est des êtres humains. Il y a forcément des relations personnelles qui s'établissent, mais parfois teintées d'un certain cynisme.
Voilà, et je pense que ça fait partie, peut-être, c'est des hypothèses que je fais, que c'est la maîtresse de maison qui le fait se maquiller comme ça parce qu'il aime bien, posséder ses bonnes.
Oh oui.
Et les posséder comme partie de son bien. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, vous êtes un peu mes filles. Mais un peu, mais pas, vous n'êtes pas mes filles. Et c'est intéressant parce qu'elle joue toujours avec les bonnes, ces jeux des... Et il y a un moment donné, Solange qui le dit, et cette femme qui était l'aigre-doux, non ? C'est ça ? Et je voulais te libérer de cette femme qui t'est traitée, qui était toujours aigre-doux. Et c'est ça, en fait, qui se passe aussi. Mais ça joue aussi quelque chose, encore une fois, pour moi, des tragiques. Il y a quelque chose des jeux de la vie et de la mort. Parce que madame, il n'arrête pas de dire à Claire, tu es encore jeune.
Et elle fait... À l'aune de ma longue expérience, alors on a horreur des gens qui font ça.
Elle se trouve vieille. Donc voilà, donc ça, ça fait un jeu comme ça qui permet aussi d'aborder cette dimension. Oui.
Et au-delà de mes propres impressions ou bien des intentions de mise en scène, comment vous, Amélie, vous avez abordé ce personnage et comment avez-vous travaillé avec votre alter ego, donc Victor Quezada Pérez, votre relation qui est un petit peu au cœur de la pièce. Comment vous avez abordé tout ça tous les deux?
C'est-à-dire, les deux sœurs sont orphelines. Mmh. La grande sœur a un caractère plus de tolarde dans ses expressions. Et la petite sœur est plus a une faille personnelle plus prononcée et une faille avec la société. Et jusqu'où elle accepte les codes qu'elle apprend depuis qu'elles sont employées de maison. Et sa survie, jusqu'où elle arrive à la tenir. Donc c'était vraiment deux caractères complémentaires, autant dans l'amour que dans la haine. Dans la pièce, on ne sait pas, on comprend qu'elle s'aime et qu'elle se déteste. C'est toujours à qui arrivera à dominer l'autre avec leurs torts, leurs travers, et en même temps, elles prennent un peu soin de l'autre.
Mais rien n'est jamais simple dans ces petites maisons, dans ces façades qui dissimulent bien des dissensions, notamment celles que vous venez de décrire à Amélie Dumay. Merci Marcos Malavia, merci Amélie Dumay d'être venue nous parler de ce spectacle,
merci.
Les Bonnes ou la tragédie des confidentes, qui est représentée au théâtre L'Étincelle, place des études, donc c'est à deux pas de la place des Corsins, à 18h, donc là, en sortant de l'interview, vous allez filer pour préparer le plateau. C'est jusqu'au 31 juillet. Est-ce que vous êtes satisfait de la fréquentation et des retours du public jusqu'à présent?
Le retour des publics est magnifique, vraiment. Les publics reçoivent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reçoivent cette pièce comme quelque chose de nouveau. Bah, ils se disent, tiens, c'est comme ça. Ça leur parle, même aux jeunes qui viennent. C'est une pièce quand même qui date, parce qu'elle est datée aussi. Mais ça parle, parce que. Et puis les gens, il y a cet aspect jubilatoire que je crois qu'on a cherché. Que est reçu par les publics. Après, oui, on sent bien aussi dans Avignon cette inquiétude des annonces des gouvernements qui risquent de démobiliser un peu le public.
D'ailleurs, le théâtre de l'Étincelle fait plus ou moins de 50 places ?
Et 110 plus.
Places.
Ah, donc oui. On sera soumis au pass sanitaire à partir de mercredi.
Oui.
Mais souhaitons que nous ressemblent, que la fatigue du festivalier et le Covid qui n'a de cesse de nous courir après, hein, que ce soit un variant brésilien, allez savoir peut-être bolivien ou mexicain un jour, nous pourchasse et nous fasse ressembler à une Katrina en l'occurrence. Allez donc savoir. on sait jamais ce qui nous attend. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce spectacle. Une mise en perspective assez novatrice sur le travail de Jean Genet, Les Bonnes ou La tragédie des confidentes au théâtre L'Étincelle à 18h jusqu'au 31 juillet. Merci. Et puis à peut-être bientôt pour un autre spectacle d'un autre imaginaire sud-américain. Allez savoir, je citais le travail de 100 ans de solitude tout à l'heure. Un autre challenge peut-être.
Oui, peut-être.
Allez, bonsoir.
Merci beaucoup.